With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Si vous êtes un habitué de notre rendez-vous quotidien, vous aurez sans doute remarqué chez nous un certain nombre de marottes. Et parmi elles, une très visible, notre goût pour la déconstruction de tous ces blocages, toutes ces peurs, tous ces rejets, ces haines ou ces idées reçues qui noyotent notre société d'une flopée de discriminations et n'aident pas franchement à nous mettre sur le chemin de l'égalité républicaine. Mais même au sein de ces discriminations, il existe, figurez-vous, une hiérarchie. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme ça. Certains coups de canif dans notre belle unité démocratique sont jugés moins graves, voire dérisoires. C'est le cas par exemple de la glottophobie, ce drôle de mot apparu dans l'actu l'an dernier, qui désigne le rejet par la moquerie entre autres des accents qui ne correspondent pas au canon du bien-parler. Ça peut paraître accessoire vu les enjeux en termes de racisme et de sexisme qui secouent notre époque, mais ça ne l'est pas. Ça en dit long justement sur nos constructions sociales. Émilie Lestari a enquêté sur la glottophobie, c'est son reportage réalisé par Vincent Hiver qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Bonjour, je suis Émilie Lestari. Je suis née à Lille, dans le nord de la France, et quand le film « Bienvenue chez les Ch'tis » est sorti en 2008, certaines personnes que je croisais à Paris se sont mises à me demander « Mais comment tu as fait pour réussir à perdre ton accent ?» En réalité, cet accent du Nord, je ne l'ai jamais vraiment eu, comme la plupart des gens qui ont grandi à Lille, à vrai dire. Mais devant l'air goguenard de mes interlocuteurs, je me suis toujours dit que c'était probablement mieux ainsi. Pourtant, au fond, quel est le problème à avoir une façon de prononcer les choses plus qu'une autre ? Existe-t-il un accent neutre, une manière officielle de s'exprimer ?
Je vais vous le dire, moi, ce qui vous gêne depuis que j'ai commencé. C'est l'accent. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je perde mon accent ?
C'est le facteur qui, en somme, fait la liaison avec le bourg, avec les nouvelles et...
On soigne le bétail, on mène le fumier dans les champs.
De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur ? Pourquoi ce privilège ? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort.
En réalisant ce sujet, je me suis demandé s'il m'est arrivé, à moi aussi, de juger quelqu'un sur sa façon de s'exprimer. Et j'ai repensé alors à la fois où, on était en week-end à la mer avec des copains, en novembre dernier, on buvait du vin, on rigolait, et tout à coup, Fabien s'est énervé. Et comme il est sympa, il a accepté de revenir sur cet épisode.
En fait, il se trouve que, visiblement, j'ai un défaut de prononciation. Étant breton, je ne prononce pas bien le mot « même », je le dis « meum ». Donc, vous entendez la différence. Il y a plein de gens qui prononcent ça comme moi. Benoît Hamon, par exemple, qui a grandi à Brest. Et c'est une source de blagues inépuisables pour mes amis qui ne viennent pas de Bretagne. Je ne sais plus qui a trouvé ça en premier, mais quelqu'un l'a remarqué un jour et depuis, ça ne s'en va jamais. Et puis, il y a eu ce fameux jour, il y a quelques mois, où ça a été la blague de trop et où je me suis un peu énervé et j'ai été très passif-agressif. Voilà, parce que je trouvais ça un petit peu classiste.
Si on devait un peu décortiquer ce qui s'est passé, est-ce que tu saurais dire exactement ce que tu ressens, en fait, quand on te reprend sur ce mot-là, ou ça peut être un autre, peut-être ?
En fait, je pense que ce que j'ai essayé de le déconstruire un peu, parce que je pense qu'il est déjà assez agaçant d'être moqué de façon incessante sur un mot. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ce qui se passe, c'est qu'on voit vraiment à quel point le français, en tout cas le français parlé par les élites, est excluant. C'est-à-dire qu'il y a un français qu'il faut parler exactement. Moi, j'ai pas d'accent. J'ai pas du tout d'accent du Sud, j'ai pas non plus d'accent breton, mais il se trouve qu'il y a un mot sur lequel je prononce pas exactement comme les autres, et là, blague, blague, blague. Et je pense que, même si c'est drôle, et tu vois, quand je rentre chez moi en Bretagne, personne ne fait la remarque. Et il y a des gens qui le prononcent comme ça, d'autres qui ne le prononcent pas comme ça, mais ça ne choque personne.
Et alors Fabien, est-ce que quand tu vois toutes ces fois où des gens te reprennent sur cette locution adverbiale quand même, tu t'es déjà dit, tiens, je vais essayer d'effacer un peu l'accent breton que j'y mets quand je prononce ce mot.
Je pense que clairement, ça serait arrivé il y a 10 ans, quand j'avais 18, 19, 20 ans, et que j'étais un peu moins sûr de moi, je l'aurais corrigé, c'est certain. Maintenant, j'ai aucune envie, j'ai pas le temps. N'empêche que j'ai quand même, je sais pas si on dirait une forme de honte, mais j'y pense. Quand je parle devant un auditoire que je connais pas, j'essaie de le prononcer, on va dire, de façon correcte ou en tout cas attendue, et ça me bloque un peu parce que c'est pas du tout naturel pour moi.
Bien sûr, le cas de Fabien est un exemple parmi tant d'autres, sur le fond plutôt inoffensif si on le compare à d'autres discriminations fondées sur le mépris de la langue de l'autre. Car ailleurs en France, il y a par exemple des individus auxquels on refuse des postes s'ils ont le malheur d'avoir un accent un peu trop du Midi, selon l'employeur. Sûrement parce que cet accent fait penser aux vacances et que les vacances, ce n'est pas très professionnel. C'est ce que l'on a appelé la glottophobie, un mot inventé dans les années 90 par le linguiste Philippe Blanchet. La glotte est un segment du larynx sur lequel se situent les plis vocaux. C'est un endroit qui permet la phonation, autrement dit la production de son propre à la langue parlée. Philippe Blanchet, vous êtes linguiste et spécialiste de sociolinguistique et vous avez inventé le terme glottophobie.
Oui, j'ai inventé le terme glottophobie pour désigner les discriminations que subissent des personnes au prétexte de la langue qu'elles parlent ou de la façon dont elles la parlent. Et donc le mot est construit sur glotto comme dans polyglotte, qui parle plusieurs langues, c'est le mot qui renvoie à la langue, et phobie comme dans homophobie ou xénophobie pour indiquer le rejet au prétexte de la langue.
Et alors pourquoi assigne-t-on des stéréotypes selon la façon dont les personnes parlent ?
Parce que ça sert à organiser les dominations dans la société, ça sert à ceux qui parlent une certaine langue ou d'une certaine façon de s'imposer comme modèle, d'imposer leur langue comme condition d'accès à un certain nombre de ressources, de services, de droits aussi, et du coup à se les réserver en empêchant ceux qui parlent autrement ou ceux qui parlent d'autres langues de partager ces ressources, ces services ou ces droits.
Donc l'accent, dans ce cas présent, est utilisé comme un marqueur social et génère du mépris social.
L'accent est utilisé, alors l'accent au sens d'une certaine prononciation d'une certaine langue, donc une prononciation qui est perçue comme différente, remarquable, est utilisé pour effectivement marquer l'origine des personnes. Du coup, ça pose aussi un problème de discrimination à l'origine. Soit leur origine sociale, effectivement, on ne parle pas, mettons le français, de la même façon dans tous les milieux sociaux, soit leur origine qu'on pourrait appeler régionale ou locale, soit leur origine étrangère. Et du coup, on utilise leur prononciation comme marqueur de qui sont ces personnes et au prétexte de qui sont ces personnes à cause de la façon dont elles prononcent le français ou une autre langue, on les exclut d'un certain nombre de droits ou de ressources.
Pouvez-vous nous donner des exemples de glottophobie ?
Oui, alors les exemples de glottophobie, il y en a énormément. On a fondé tout notre travail sur un gros recueil de témoignages. Ben, l'exemple de glottophobie, c'est quelqu'un qui candidate à un emploi, qui passe un entretien, par exemple un concours pour devenir enseignant, ou un entretien pour obtenir un rôle quand on est comédien ou comédienne, et à qui on dit clairement et explicitement, avec l'accent que vous avez, c'est pas possible qu'on vous embauche.
Dans votre travail, vous parlez également d'un mythe français de l'homogénéité de la langue. Vous observez que dans les métiers de la parole, donc, on cherche souvent à standardiser, uniformiser et lisser les voix.
Oui, alors l'histoire linguistique de la France a été, alors surtout à partir de la Révolution française, un petit peu avant, à la fin de la monarchie, déjà l'idée d'imposer une langue comme étant une langue supposée supérieure aux autres, le français. Il ne faut pas oublier que la France est au départ et qu'elle est rester un pays fortement plurilingue, et puis une certaine façon de parler le français en construisant une norme, il faut employer tel mot et pas tel autre, tourner les phrases d'une certaine façon ou prononcer d'une certaine façon. Et arrivé à la Révolution française, on en a fait le pilier de l'identité nationale. Et du coup, on a une espèce de mythe, d'idée fantasmagorique, parce que concrètement c'est pas possible, selon laquelle tout le monde devrait parler de la même façon. Et on objecte aux gens qui parlent pas selon le modèle, on leur dit « vous parlez mal », au lieu de leur dire « ce qui serait plus juste, vous parlez différemment ».
Vous citez Bourdieu, qui explique que la parole est aussi un produit et un instrument de pouvoir, une forme d'outil de violence symbolique. Est-ce que finalement c'est une spécificité française ou on peut trouver ça aussi dans d'autres pays ?
On trouve ça dans d'autres sociétés, mais rarement à un tel degré que dans la société française. Il y a des sociétés qui se sont construites aussi autour d'une langue. Je pense par exemple à la Turquie, autour du turc et de l'exclusion des autres langues de Turquie. Il y a un peu ça autour de l'anglais, et surtout de l'anglais aristocratique en Grande-Bretagne, ou de l'anglais des classes supérieures de la côte Est aux États-Unis. Mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'en France. On accepte beaucoup mieux que les gens, d'abord, aient le droit de parler d'autres langues dans ces pays-là, et aussi que les gens parlent cette langue de façon différente. Donc ça existe aussi ailleurs, et on en a trouvé des témoignages, hein, mais la société française est vraiment l'archétype de la société qui s'est crispée sur son rapport à la langue.
Mélenchon, comme vous disiez sur la 3 il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République.
Hein? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Non, mais...
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous dites. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? Et à peu près compréhensible, parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas.
Après les moqueries de Jean-Luc Mélenchon au sujet de l'accent toulousain d'une journaliste, la députée de Paris Laetitia Avia veut reconnaître les accents comme un critère de discrimination. Est-ce que vous pensez qu'une loi peut être utile pour sanctionner ce type de stigmatisation ?
Alors oui, c'est nécessaire, y compris et surtout parce que la notion même de discrimination est avant tout une notion juridique. C'est un délit. Produire une discrimination est un délit. C'est dans le code pénal français comme dans un certain nombre d'autres pays du monde. Hein. C'est l'article 225 du code pénal qui dit que si vous traitez quelqu'un différemment au motif de, et il y a toute une série de critères qui sont justement considérés comme inacceptables, ça constitue une discrimination, c'est un délit, vous êtes passible du tribunal correctionnel. Et donc c'est une bonne chose de l'introduire dans la loi. Bien sûr, il reste à ce que ça rentre dans la tête des gens et à l'appliquer, mais c'est une bonne chose puisque ça caractérise bien la discrimination comme un objet juridique. En 2016, en novembre 2016, a été ajouté dans la loi justement le fait qu'on n'ait pas le droit de traiter quelqu'un différemment au motif que cette personne peut s'exprimer dans une autre langue que le français. Donc c'est récent et ça a suivi les échos médiatiques de mon livre qui est paru en janvier 2016. Il y avait d'ailleurs eu deux propositions de loi à ce moment-là par deux groupes de députés. L'un qui a proposé la formulation qui finalement a été retenue, celle que je viens de rappeler, et une autre qui disait tout simplement une discrimination de langue, y compris d'accent. Et ça, c'est une proposition qui date de juin 2016. Donc vous voyez qu'il y a d'autres parlementaires qui y avaient pensé. Et quand Laetitia Avia a réagi, elle a bien fait de ce point de vue-là, parce que, effectivement, depuis plus d'un an, on ne pouvait plus se moquer de quelqu'un parce qu'il parle une autre langue, et surtout traiter cette personne différemment. Là, en l'occurrence, c'est refuser de répondre à ses questions et l'empêcher de faire son métier. Et elle a dit, mais il y a aussi la question des prononciations du français, et ça serait bien qu'on dise explicitement qu'on n'a pas le droit de discriminer les gens à propos de leur accent. Donc je pense qu'elle a bien fait. Cela dit, même si ça entrait dans la loi, et vous avez vu, les réactions ont été très mitigées, hein, et on a même fait croire à un moment donné que c'était une blague de sa part, ce qui était faux, elle a fait un démenti. Même si ça entrait dans la loi, il faudra quand même du temps pour que ça rentre dans la tête des gens et que du coup, les comportements changent.
Alors pourquoi aujourd'hui de nombreuses personnes minimisent la glottophobie ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, la plus importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est parce que tout le monde a été éduqué dans la société française à considérer comme normal de penser qu'il y a une langue et une façon de la parler qui est supérieure aux autres. Or, ça revient au même que de dire qu'il y aurait une couleur de peau qui serait supérieure aux autres. C'est évidemment pas normal du tout. C'est complètement faux et arbitraire. Mais comme ça fait de nombreuses générations que les gens étaient éduqués à penser comme ça, tout le monde trouve ça normal, et du coup, les gens, brusquement, viennent leur dire « Mais non, c'est pas normal, on n'a pas le droit de traiter les gens différemment à cause de leur façon de parler. » Et c'est difficile de bouleverser ça. Donc, les gens n'imaginent pas que ça soit une discrimination. Il y a d'ailleurs des gens qui... explicitement font des discriminations glottophobes, alors que souvent les discriminations sont difficiles à démontrer. Hein. C'est difficile de montrer que quelqu'un n'a pas pu entrer dans un lieu à cause de la couleur de sa peau, par exemple. Les gens savent que c'est interdit, et donc ils disent « mais non, c'est pas pour cette raison-là que la personne n'est pas entrée ». Mais pour la langue, les gens ils disent clairement « mais avec l'accent que vous avez, c'est pas possible, vous avez qu'à parler français ». Et donc c'est difficile à faire entrer dans la tête des gens pour cette raison-là. L'autre raison, c'est que... les gens n'y sont pas sensibles du coup, c'est-à-dire que les gens s'en rendent pas compte. Quand on refuse de répondre à une journaliste à cause de sa prononciation du français, les gens pensent que c'est une moquerie et seulement une moquerie, ce qui est déjà pas bien de mépriser quelqu'un pour ça. Mais en même temps, c'est pas qu'une moquerie, il faut voir les conséquences derrière, c'est que cette personne est empêchée d'exercer son métier. Et les gens ont du mal à imaginer qu'il y a des conséquences concrètes qui peuvent être graves à ce prétexte linguistique.
Comment aujourd'hui on peut se défendre quand on est victime de glottophobie ?
Alors, il y a de nombreuses façons, heureusement. D'abord, il y a des façons légales et juridiques, puisque il y a toute une série de réglementations en France qui protègent les gens contre les discriminations linguistiques, contre la glottophobie. D'abord, le fameux article 225 du Code pénal dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis aussi, dans toute une série secteurs d'activité, de secteurs juridiques, il y a des textes qui disent que on a le droit d'exiger une traduction dans une autre langue que le français, ou que les gens ont le droit qu'on leur parle dans une langue qu'ils comprennent. Donc, on ne peut pas leur imposer, par exemple, la langue française. Et ça, c'est par exemple dans le code du travail, dans le code de l'immigration, dans le code de procédure pénale pour le fonctionnement des tribunaux. Donc, il y a déjà toute une série de protections. Et puis, après, il faut que les gens osent saisir soit le défenseur des droits, parce que c'est son rôle de protéger les gens contre les discriminations, soit carrément les tribunaux, avec des bons arguments. Mais il faut pouvoir prouver évidemment qu'on a été discriminé, il ne faut pas faire des dénonciations à la légère, pour obtenir réparation, parce que plus il y aura de tribunaux qui auront prononcé des jugements en disant « c'est une discrimination, elle est illégale et on condamne la personne qui l'a produite », mieux ça circulera dans la société, plus les gens y seront attentifs.
Est-ce qu'on observe que les gens arrivent à obtenir réparation ?
Pour l'instant, très peu, parce que les textes internationaux qui interdisent les discriminations linguistiques qui ont été ratifiés par la France sont parfois très anciens. Je pense à la Charte européenne des libertés fondamentales. Mais les gens ne le savent pas. Ils ignorent qu'on n'a pas le droit de traiter les gens différemment en fonction de leur langue, de leur refuser leurs droits, par exemple. Donc les gens porte pas plainte. Hein. Il a fallu que ça entre dans le droit français. Là, c'est plus près des gens, donc les gens le savent mieux. Mais vous voyez, c'est novembre 2016, ça fait 2 ans et demi. Encore faudrait-il que quelqu'un porte plainte avec ce prétexte-là, qu'un tribunal rende un jugement qui ferait jurisprudence, que les médias y fassent écho. Et du coup, petit à petit, ça se produirait. Mais c'est trop récent pour l'instant. Même si on voit bien que dans la société française, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, notamment sur les accents. Sur le droit à parler une autre langue, c'est plus compliqué. Mais sur le droit à avoir un accent en français, on voit bien que les médias réagissent. L'histoire de Mélenchon, c'est un bon exemple. Hein. Elle se serait passée 5 ans plus tôt, personne n'en aurait parlé. Et là, toute la presse en a parlé, tous les journaux télé ont montré l'extrait qui a été filmé, avec un discours un peu scandalisé, ce qui montre bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer.
L'opinion publique commence donc à être un peu sensibilisée à cette question. Mais quelle est l'ampleur véritable de la glottophobie ? À quel point, aujourd'hui en France, des individus sont-ils stigmatisés à cause de leur façon de parler ? Pendant plusieurs années, les universitaires Philippe Blanchet et Stéphanie Clerconan ont reçu des milliers de témoignages de personnes discriminées à cause de leur accent ou à cause de leur langue. Il y a par exemple ce journaliste québécois à qui l'on a fait comprendre qu'il ferait mieux d'abandonner toute carrière à la radio, parce que sa parole sonnait comme une blague.
On parlait français dans la cabane, dans la maison. Mm-hmm. Et... c'est un quartier, toutes des Français. La rue Beaulieu, puis la rue Boisvert. Puis...
ou encore cette jeune femme recalée à la grègue à cause de son accent du Sud, qui, soi-disant, ne fait pas sérieux. Sans parler de ce petit Ahmed que l'on a grondé à l'école en lui disant que le H de son prénom ne devait pas s'entendre. Ahmed, on dit. Ahmed, ici, avait repris l'institutrice. Dit-on de la même façon à un petit John qu'en France, les J ne se prononcent pas comme ça? Dans le même temps, on continue à disqualifier le parler des jeunes dits de banlieue ou encore l'accent du Nord, une façon de déposséder certaines personnes de leurs capacités intellectuelles et de les exclure du débat démocratique.
Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. T'as, tu vas me niquer les batteries.
Il y en a qui vivent dans des cités, ils ont leur manière de parler. Nous, on vit dans des villes comme la ville du Bois. On a notre manière de parler, c'est complètement différent. En fait, ça dépend de la communauté dans laquelle on grandit, quoi.
C'est un truc que t'apprends, tu vois. Je veux dire, comme on va dire dans le quartier bourgeois, tu vois, des choses tu vois, qui se disent que nous, on n'utilisera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on habite pas au même...
En fait, dans notre pays... La glottophobie est si grande qu'il arrive même que des personnes effacent leur accent pour se conformer, sans même s'en rendre compte. C'est le cas de Julie, qui a grandi dans le Gers et vit à Paris depuis maintenant 10 ans.
En fait, je me suis rendu compte d'un truc il y a quelques jours, c'est qu'en fait, effectivement, j'ai pas mal perdu mon accent, mais qui revient toujours. Il revient toujours quand... Quand je me détends, que je suis vraiment très détendue, que je suis au contraire très en colère ou que j'ai bu quelques verres de vin, là, l'accent, il revient toujours à fond ou quand je suis avec ma famille dans le sud. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi le point commun entre tous ces moments où je retrouve l'accent? Et en fait, c'est des moments où je suis totalement dans le lâcher-prise. Et c'est là où je suis arrivée à me dire qu'en fait, je devais... inconsciemment, tout le temps, maîtriser ma façon de parler. Comme si, en fait, j'étais un peu bilingue. C'est-à-dire, voilà, depuis que je suis à Paris, du coup, j'ai fait une espèce de mimétisme, en fait, pour être dans les standards de ce que les gens attendaient de moi. Mais c'était totalement inconscient, en fait. Et du coup, petit à petit, je pense que j'ai gommé mon accent.
Au fond, il n'y a malheureusement rien d'étonnant à ce que Julie et d'autres personnes s'auto-censurent. L'histoire de la langue française est elle-même glottophobe, puisqu'à sa création en 1635, l'Académie française a immédiatement préconisé le français le plus aristocratique. Dans son sillage, la différence linguistique a toujours été considérée comme un travers. Le fait que la France soit un pays si centralisé n'y est pas pour rien. Centre politique, centre économique, centre culturel, Paris est une ville par laquelle tout transite. C'est depuis elle que le bon français se pose en cadre normatif. Même le parler parisien, cet accent populaire du titi parisien que l'on a beaucoup entendu dans le cinéma des années 30, a disparu au profit d'une manière plus homogène de s'exprimer, celle que l'on entend partout dans les médias. Sur cette question, le linguiste Mathieu Avanzi propose une comparaison avec d'autres régions du monde.
C'est différent, disons par exemple, si je prends pour des pays comme la Suisse ou comme la Belgique, pour rester dans la francophonie, ces pays-là, disons, ils ont plusieurs centres. Si vous prenez par exemple la Belgique, où Bruxelles se trouve en plein milieu d'une... Enfin, c'est une enclave dans la zone néerlandophone. Il n'y a pas vraiment, enfin, l'accent bruxellois traditionnel, c'était un accent qui mélangeait du bruxellaire, donc un dialecte alémanique, enfin, un dialecte germanique avec du français. Et la norme, si on veut, la norme du français de Belgique ou la norme d'un français de l'accent local, c'est plutôt celle de Namur, donc qui est la province en plein milieu de la Wallonie. Et puis, ce qui ressemble à du français international, c'est plus ce qu'on va parler à Tournai, donc qui est à côté de Lille, donc très très proche de la frontière. Et puis de nouveau, en Suisse, bon, vous avez Genève qui joue un peu le rôle de centre, alors que ce n'est pas du tout une capitale. Et à l'intérieur de chacun des cantons, vous avez des variétés locales et des centres locaux qui jouent aussi le rôle standardisant. Donc le statut de Paris, à l'échelle du monde, je dirais en tout cas à l'échelle de la francophonie, est assez particulier. Vous avez, on peut dire à peu près la même chose au Canada. Vous avez Québec, la Québec-ville qui est la capitale, et puis Montréal qui est une des plus grandes, Québec-ville qui est la capitale de la province du Québec, et puis Montréal qui est une ville beaucoup plus grande. Et donc ces deux pôles jouent chacun le rôle de centre, mais ils ont chacun des normes différentes et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, quoi.
Alors que faire aujourd'hui pour lutter contre la glottophobie? À l'école, on fait simple. La langue enseignée est souvent la plus standardisée. C'est celle de l'uniformisation, le français de base ou la langue des bourreaux, comme dirait Jean Genet. Mais en marge de cela, il nous appartient à tous de comprendre et de cultiver la diversité linguistique. Pas simplement pour l'esthétique pittoresque des accents régionaux. Aussi parce que dans notre société, toutes les discriminations ont tendance à se cumuler. C'est en ce sens que la glottophobie est rarement une simple raillerie linguistique. Trop souvent, elle va avec du racisme social, un mépris de classe ou encore un dédain régional. Elle fait donc partie d'un système entier de discrimination qui vise souvent à dominer les mêmes catégories de personnes.
Merci à Émilie Lestari pour ce reportage réalisé par Vincent Hiver. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur l'appli de podcast qu'il vous plaira pour suivre nos épisodes au jour le jour. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, si vous nous écoutez via Apple Podcast avant d'aller vaquer à d'autres occupations, laissez-nous donc 5 petites étoiles, ça nous prendra moins de 10 secondes, ça nous fera bien plaisir. Voilà, c'est dit, à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.